Bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme je l'ai annoncé quelques minutes avant, aujourd'hui, on est dans une nouvelle émission d'Art d'Orient pour parler de l'échange qu'il y a entre ces deux langues que sont le français et l'arabe. Comment l'arabe est présent, et de sous quelle manière, sous quelle forme aussi est présent, comment l'arabe est présent dans la langue française, dans la linguistique française. On a tendance à croire que dans notre idée reçue ou dans les idées reçues qu'on peut trouver ou alors dans notre inconscient collectif, que l'arabe et le français sont des langues qui sont complètement hermétiques. On a tendance à croire que les arabes, c'est de l'autre côté de la mer, et le français. C'est deux histoires différentes, c'est deux peuples différents, c'est deux langues qui sont différentes, mais la réalité, c'est que l'histoire prouve le contraire, et pas que, puisque on va voir que l'histoire prouve le contraire, mais aussi la linguistique, l'histoire de la linguistique, l'histoire de la langue. Et aujourd'hui, on a avec nous Hassan, qui est le fondateur du site Méthode Jawed. Donc, tu es spécialiste en langue arabe, tu es aussi consultant en langue arabe et aussi tout ce qui touche à la culture arabe aussi. Tu interviens dans ce domaine-là. Merci, ouais. Bienvenue à toi, déjà.
Merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et voilà, moi j'ai découvert aussi Art d'Orient quand tu m'as contacté, du coup. Et ouais, j'apprécie beaucoup le travail qui est fait. Voilà, c'est un beau projet et que je soutiens au final maintenant. Donc j'ai découvert, je soutiens. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui connaissent pas très bien à aller jeter un œil à ton site et au podcast que tu partages et qui sont très intéressants, tout aussi intéressants les uns que les autres. Voilà. Et effectivement, là, le sujet était très intéressant aussi pour le coup. Tu vois. Donc, autant le projet est intéressant, autant les sujets que tu vas aborder sont intéressants. Donc, ça m'a donné envie tout de suite. Hein. Voilà.
Bah, écoute, c'est un plaisir aussi, c'est partagé. Les auditeurs et auditrices, je pense que aussi ils vont aimer, c'est sûr, sans doute. En tout cas, je l'espère. En tout cas, moi, je suis à la fois aujourd'hui animateur, mais aussi auditeur. Je suis là aussi pour apprendre aujourd'hui. Et on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu pourrais déjà nous placer le contexte? Comment ces deux langues
avant même de faire ça, on a réfléchi avec mon épouse, du coup, parce que je suis fondateur, certes, mais je suis pas tout seul, j'aime toujours le rappeler. Sans elle, la méthode Jawed serait pas ce qu'elle est, et je serais sûrement pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, elle prend une partie importante du projet, en fait. D'accord? Elle a pris part au projet, elle en est aussi, on doit parler d'elle parce qu'on la voit pas du tout, mais elle est là,
elle est présente. Elle veille.
Voilà. Donc en tout cas, on a trouvé un petit bout de texte qui était intéressant. Je vais vous le redire. En fait, le texte dit la chose suivante. Si vous prenez un café sans sucre ou un jus d'orange, que vous achetez des épinards, que vous achetez des aubergines, une chemise, des abricots dans le magasin d'en face, et que en allant faire ses courses, vous êtes vêtu d'une jupe en coton et d'un gilet en camailleux. Là, avec ce petit bout de texte, tu vois, par exemple, on a déjà plus de 10 mots qui sont issus de la langue arabe.
Wow.
Des mots comme épinard, comme magasin, comme abricot, comme jupe, comme camailleux, comme coton, comme orange, tu vois, tous ces cafés, sucre, etc., ce sont des mots qui sont issus de la langue arabe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des mots scientifiques que je viens d'utiliser. C'est des mots, en fait, de la vie de tous les jours. C'est ce qui montre la force de la langue, ou en tout cas, la force de l'apport dans la langue française au niveau de ce texte, c'est qu'en fait, ce sont pas des mots que seule une catégorie de personnes va utiliser. Non, c'est vraiment des mots qui sont utilisés par les Français au quotidien. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça montre à quel point ça a eu un impact dans le quotidien des Français, ou en tout cas de ceux qui ont vécu en France à l'époque où les mots sont apparus, ou en tout cas à l'époque où les mots sont venus enrichir. Parce que là, moi, je parlerais plus d'enrichissement de la langue plutôt que toi, tu dis d'influencer. Je pense que c'est enrichir la langue. Et chaque langue s'enrichit d'une autre, hein, bien évidemment. Mais à cette époque-là, voilà, la langue arabe est venue enrichir le quotidien des Français. Mettre un peu, par exemple, le vocabulaire des épices qui a développé aussi la langue française, mais pas que la langue, en fait, même les papilles gustatives, en fait, elles ont été développées à ce moment-là. Même les couleurs, En fait, ça, la langue, elle ne développe pas juste le vocabulaire, mais elle va développer aussi les idées, elle va développer aussi les goûts, etc. C'est un peu tout ça, en fait, en même temps. On oublie qu'un mot nouveau, c'est aussi un concept, parfois l'art culinaire qui vient mettre un peu son grain de sel, parfois un nouveau vêtement qui vient apparaître, etc. En tout cas, tout ça vient influencer de manière durable, jusqu'à aujourd'hui au final, la langue française. Et si tu veux, le sourd modèle en langue arabe, elle est la troisième source d'emprunt de la langue française après l'anglais et l'italien. Si tu veux, dans la langue française, en gros, pour faire simple, pour que ce soit percutant pour tout le monde, il y a plus d'arabes dans le français que de gaulois. Tu vois? Même le gaulois, il y en a moins, tu vois. C'est ça qui est assez drôle. La langue française, si tu veux, c'est la langue de l'accueil aussi, tu vois, à ce niveau-là. Elle accueille d'autres langues. Et, dans les contextes qui sont passés actuellement, des phénomènes migratoires dans lesquels on dit on est français, on veut rester français, etc. Le français, en fait, dans son ADN, s'inscrit, il accueille l'autre. Donc, tu vois, il doit, en fait, accepter l'autre de toute façon parce que l'autre est déjà en lui. Tu vois? Et la langue, c'est ça. Elle est présente dans la langue française. Alors, comme la langue française a été présente dans l'anglais, hein, à un moment donné qu'elle a été présente à la cour d'Angleterre, etc. Elle a été très influente. Il faut qu'elle accepte aussi qu'elle a en elle des mots et elle peut pas se laver de ces mots-là. Ces mots sont son identité et elles font ce qu'elle est, cette langue aujourd'hui. Elles font sa richesse. Et tu vois, t'as des mots, par exemple, qu'on n'imagine pas qui sont arabes. T'as le mot magasin tout à l'heure que je disais, magasin, qui vient de makhazin à l'arabe en arabe. Donc ce mot makhazin, c'était en fait le lieu dans lequel on va emmagasiner des choses, stocker, etc., des choses qui a donné magasin. Et ces mots-là, en fait, ils sont pas forcément apparus tout de suite en France, tu vois. Ils sont passés, ils ont cheminé d'abord, avec l'expansion du monde arabe. Il y a eu la Sicile qui a été prise à un moment donné. Il y a eu l'Andalousie, l'Espagne. Et beaucoup des mots, d'ailleurs, ont cheminé via l'Italie ou via l'Espagne. Tu vois, via l'Andalousie ou via la Sicile.
Une sorte de transmission indirecte, en fait.
Voilà. Donc, il y a eu un cheminement. Et ce cheminement a fait que, d'ailleurs, on a latinisé les mots. Tu vois, les mots qui ont perdu un peu de leur essence arabe. On a l'impression que c'est des mots latins, parfois. Et c'est pas le cas, je pense pas. Mais almanach, ben c'est almanach. Et d'ailleurs, plein de mots comme ça qui commencent par al. Quand on retrace, on retrouve que c'est en fait l'article de la langue arabe, le al, l'article alif lam, qui permet de dire le, l'aller en arabe, étant donné qu'il n'y en a qu'un. Mais pareil pour abricot. Abricot, c'est juste que le al, il a disparu à un moment donné, on dit al-barquq, et c'est venu comme ça, etc. On a d'autres mots encore plus improbables. Le mot jupe, jobba, l'arabia, c'est un B, mais le P, étant donné que le P n'existe pas en arabe, le fait de mettre un P, on n'a plus l'impression que c'est de l'arabe, tu vois. Mais c'est un mot arabe, le sucre, azúcar, d'ailleurs on l'a en espagnol, qui est passé par l'espagnol, azúcar, le azúcar espagnol.
T'as le
charabia. Ou exactement, enfin, le portugais, bon après on est proche, etc. Mais tu vois, le mot charabia, par exemple, c'est un mot, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ce charabia? En fait, le mot charabia, c'est de l'arabe, en fait. Et pour la petite histoire, charabia, ça vient de quoi? En fait, si tu veux, lorsque les Arabes arrivent à la cour de France, etc., ils entendent. Alors, les Arabes sont connus pour la poésie, leur amour pour la poésie, le shi'ar. On appelle ça l'arabe, le shi'ar. Ils aiment ça. D'accord. Toi, je pense que t'es bien placé pour le savoir. Quand t'es Ibn Arabi, tout ça, ça te parle, je pense. Donc, la poésie, c'est quelque chose de fort pour eux. Et donc, quand on va arriver dans un endroit honorable, respectable, dans lequel, en tout cas, on veut marquer son passage, on va déclamer un poème. Et ils l'ont fait avec d'autres peuples que les Arabes. Quand ils arrivent à la cour française, on va déclamer un poème. Et on appelait ça shi'ar al-arab. Shi'ar al-arab. Et bien évidemment, on ne comprend pas le poème, c'est de l'arabe. Donc, le poète, lui, il se fait son kiff à lui, si tu veux, parce qu'il va dire un truc. Et à force, en fait, on dit, oh là, c'est du shi'ar al-arab, qui a donné à un moment donné, charabia, shi'ar al-arabia, tu vois. Et en fait, à un moment donné, vu que c'est pas compréhensible, bah, le charabia, c'est devenu la chose qu'on comprend pas, tu vois. C'est quoi ce charabia? C'est, je comprends pas ce qui est raconté. Et ça a donné ça, tu vois. Donc, c'est des voyages comme ça.
Magnifique.
Mais tu vois, c'est des mots, en fait, qui sont trop mal, même très, très beaux, dans le sens où, quand tu reviens à l'origine du truc, ah, c'est du shi'ar al-arab. En fait, l'histoire, elle est belle là-dedans. Mais en fait, ouais, on comprend pas. Et après, ça prend une nature à un moment donné péjorative, tu vois. C'est ça qui est intéressant. À quel moment ça devient péjoratif? Il y a plein d'autres mots comme ça qui deviennent péjoratifs. Maintenant, on est dans l'argot, mais là, je vais retracer avec toi, si tu veux, l'histoire un peu. Mmh. La langue arabe, si tu veux, à quel moment déjà commence à impacter le monde? C'est au moment où ce qu'on appelle les futuhat. On a différentes façons de les appeler en français. Certains disent que c'est le moment de conquête, d'autres disent que c'est le moment de l'expansion, d'autres disent que c'est juste les ouvertures. Mmh. Peu importe comment on les appelle. On va appeler ça conquête pour que ça parle à tout le monde. C'est le moment où les Arabes décident de sortir de la péninsule et décident de conquérir d'autres territoires. D'accord? Là, à ce moment-là, c'est là où, si tu veux, toute la force de la langue arabe commence à faire effet, à prendre. Sachant que dans l'arabe, déjà, il y a de l'emprunt. Hein. Il faut pas oublier que la langue arabe, c'est une langue sémitique. Donc, il y a des termes hébraïques qui sont similaires. Je vois, ouais, Gibraltar qui passe, effectivement, Jabal Tariq. Bien sûr, c'est connu. Il y a, d'ailleurs, en Espagne, il y a aussi Guadalquivir, qui veut dire Wad al-Kabir. L'arabie, c'est le Wad al-Kabir. Oui. Il y a énormément de termes. Je prends même l'Alhambra. Rien quand vous prenez le mot l'Alhambra, ça vient de la couleur al-Hamra de l'arabie. Ouais, donc, il y a énormément de termes qui ont été empruntés. Juste pour revenir, du coup, quand il y a eu ces expansions, ces futuhats, pendant la période dite des Omeyyades, c'est à peu près 650, 750, après il y a des divergences sur les périodes, mais à peu près dans ces eaux-là, il y a un homme, un calife qui s'appelle Abd al-Malik ibn Marwan, qui va décider de ouais, Ramatué, Rahmatullah, exactement. Ça, c'est ma femme, par exemple. Donc, petite dédicace. Donc, du coup, si tu veux, quand on arrive à ce calife-là, Abd al-Malik ibn Marwan, il décide, lui, de faire de la langue arabe ce qu'on appelle un koiné. Un koiné, grosso modo, c'est une langue qui va devenir une langue qui va être utilisée dans tout l'Empire, comme langue officielle. Ça va être la langue officielle pour l'administration, etc., etc. Donc, en fait, tous les territoires conquis vont devoir adopter la langue arabe comme une langue maintenant officielle. Alors qu'avant lui, c'était pas forcément le cas, tu vois. Avant lui, c'était bon, bah, tel peuple parle comme ça, bon, on va voir comment échanger avec ce peuple-là, tel pays parle comme ça, etc., tel territoire parle comme ça, etc. Et à partir de lui, non, on va imposer cette langue-là comme langue officielle, donc la langue de l'échange administrative, etc. Donc, pour accéder à ces fonctions, les personnes de science, etc., vont devoir être obligées de passer par la langue, etc., etc. C'est une manière, en fait, déjà, de donner une place particulière à la langue arabe à ce moment-là. Donc, ça, si tu veux, ça commence par lui, déjà. Donc, ça commence par l'expansion, okay. Certes, mais après, ça commence par lui, par ce koiné-là. D'ailleurs, c'est à son époque à lui qu'il y a une révision. Quand je dis révision, c'est de la grammaire arabe et notamment de la vocalisation du corpus coranique aussi, par exemple, tu vois. Et là, c'est pas vraiment lui hein, directement, c'est un de ses gouverneurs qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui va mettre en place le système des voyelles, par exemple, tu vois, sans lequel, en fait, ça aurait été les harakat, effectivement, sans lequel ça aurait été compliqué que la langue arabe arrive jusqu'à des contrées dans lesquelles on utilisait des systèmes d'écriture dans lesquels il y avait de la vocalisation. On pouvait pas intégrer ça en tant que personne qui apprend une langue dans laquelle il y a consonne ou voyelle. Si tu me donnes que des consonnes, je peux pas lire. Et donc, lui, il a mis ça en place, tu vois. Donc, cette période, elle a été, selon moi, encore là, c'est moi qui parle, mais selon moi, c'était une période phare, une période qui a permis que la langue puisse être intégrée, comme elle l'a été à un moment donné, et qu'elle puisse enrichir d'autres langues, en tout cas, apporter sa contribution au patrimoine mondial. Et du coup, cette langue-là va voyager effectivement entre l'Orient et l'Occident du fait logique des échanges qu'il y a entre les hommes. Les échanges qui sont scientifiques, les échanges qui sont avant même scientifiques commerciaux, tu vois. Le commerce, c'est ce qui a énormément fait. Hein. C'est par là qu'on a connu les épices, c'est par là qu'on a connu les vêtements, etc. C'est pas par autre chose que par le commerce. Et bien évidemment, quand il y a un vêtement qui arrive qu'on ne connaît pas dans une contrée, on peut pas lui inventer à moi à ce moment-là, on prend le vêtement avec son nom. On prend comme il est. L'épice, vous la prenez comme elle vient. Donc à ce moment-là, bah forcément, les mots qui viennent avec ces produits-là sont les mots de l'innovation. Et les mots de l'innovation à cette époque-là, c'était des mots arabes.
Comme en français, on dit djellaba. Les gens ils disent c'est une djellaba.
Ouais, exactement. On prend les mots arabes. C'est logique en fait. Mais tu vois, tu parles de djellaba sarwal, tu vois, qui est revenu à les mots d'un moment donné, etc. Le sarwal. En fait, c'est juste le pantalon. Mais le fait de dire sarwal, ça connaît un pantalon particulier. Qui vient de tel endroit, etc., etc. Donc, tu vois, c'est une connotation. Mais le terme serwal, c'est un terme arabe, quoi. Serwal, bon, quand on me disait petit, pour moi, c'était pas le pantalon arabe, c'était le pantalon, c'est tout.
Le pantalon arabe,
c'est un jean. On parle en arabe, quoi. C'était un jean, en fait. Un jean, c'était un serwal pour moi. Et quand tu dis un serwal pour une personne francophone qui n'a pas connu la langue, il va dire ouais, ça roule, ouais, c'est le truc avec la poche qui descend au milieu. C'est pas forcément ça. Mais tu vois, donc première période, c'est celle-là. La deuxième période, tu as la période des Abbasides. Donc, les Abbasides qui vont mettre fin aux Omeyyades, je vais dire ça comme ça pour faire simple. Là, j'ai plus de 20%, j'espère que ça va tenir. Hein, il nous reste combien de temps, en fait, je ne sais pas.
Bah,
il nous reste
c'est libre.
D'accord. Bon, il me reste 20% de batterie, j'espère que ça.
Il nous dira.
Même pas de chargeur. Ouais. Arrivé au Moyen-Âge, en tout cas, la période à peu près du Moyen-Âge, on a le califat des Abbasides, notamment avec Harun al-Rashid, qui est très connu, hein, parce qu'il est cité même dans les Mille et Une Nuits. Harun al-Rashid, il va avoir une bibliothèque très, très riche, dans laquelle il va récupérer l'héritage gréco-romain qui était aux mains des Byzantins. Et il va te faire un travail de traduction, un premier travail de traduction qui va être assez sommaire. Et ça va être parce que ça va être sa bibliothèque personnelle. Mais suite à Harun al-Rashid va arriver Al-Ma'moun, son fils, en fait. Et Al-Ma'moun, il va faire une chose qui ne se faisait pas forcément. Il va ouvrir cette bibliothèque-là aux scientifiques. Il va donner accès à cette connaissance aux scientifiques arabes. Et à ce moment-là, il va se produire ce phénomène qui va être de tout simplement récupérer les savoirs passés, ceux des Grecs, ceux des Romains, etc., le savoir passé, de le mettre, de le traduire, c'est-à-dire de lui donner accès aux Arabes de l'époque, et derrière de développer ses connaissances. C'est ça qui a été fort, c'est qu'ils ont certes traduit, c'est-à-dire ils ont voulu accéder à ce qui avait existé, mais ils ont poursuivi ce travail-là. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'arabe va vraiment prendre le statut de langue des sciences. Et c'est à ce moment-là que Bagdad devient la cité des sciences. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on parle de l'âge d'or du monde musulman. C'est à ce moment-là que ça devient la plateforme, la plaque tournante. Si tu veux apprendre, tu fais pas la Oxford, pas la Bagdad. Aujourd'hui, quand tu dis Bagdad, quand tu dis ouais, c'était Bagdad, c'est catastrophique, c'est
la guerre. C'est le chaos.
Avant, c'était Bagdad, voilà, tu vois. Mais tu vois comme quoi les mots changent, tu vois, les mots changent, les notions changent, parce que bah, c'est les époques, c'est le mot voyage, en fait. Et d'ailleurs, là-dessus, je vous conseille des lectures, moi, il y a Le Voyage des mots d'Alain Rey et Nos ancêtres les Arabes de Jean Pruvot, qui reprennent beaucoup tout ce que je suis en train de dire là maintenant, et qui le reprennent sans doute mieux que moi. En tout cas, c'est des bouquins qui sont super intéressants. Donc, suite à cette période d'Al-Ma'moun, etc., bah, au Moyen-Âge, il y a le vocabulaire savant qui va énormément être latinisé, comme je te disais tout à l'heure, et cette langue arabe va entrer dans la langue française et va venir enrichir cette langue française. Et tu vas retrouver les mots comme algorithme, comme almanach, comme alcool. Tu vois, le mot alcool, c'est de l'arabe, ça se disait de toute chose qui était distillée à la base, et petit à petit, bah, les premiers, je crois, en parler comme ça, comme une boisson enivrante, c'est les pharmaciens qui font ça, à faire évoluer ce mot-là vers autre chose. C'est les végétaux aussi, c'est la faune, la flore, tu vois, les abricots, les artichauts, et quand je dis la faune, c'est des animaux qu'on connaissait pas forcément, les gazelles, la girafe, avec des zoos qui vont être ouverts à Paris, des choses comme ça. Et là, on commence à voir de nouvelles choses, ça devient intéressant, tu vois, on commence à sortir de ce qu'on connaissait vers un monde qui est différent. Une sorte de début de mondialisation, même s'il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et après cette période-là, cette période, on va dire, riche, etc., dans laquelle il y avait un vrai échange, un vrai partage, il va y avoir la période de la colonisation aussi. Il faut pas oublier que ces périodes-là aussi, elles ont influencé la langue française. Parce que pourquoi? Parce qu'on va arriver dans des pays du Maghreb. Dans les pays du Maghreb, on parle le maghrébin, donc le dialecte marocain, algérien, tunisien, ce que vous voulez, mais c'est un dialecte qui est issu de la langue arabe. Donc forcément, il y a un lien clair et net entre ces deux langues-là. Et à ce moment-là, on va, pour communiquer avec les populations du Maghreb, bah, forcément, emprunter des mots qui parlent à ces personnes-là. Donc on va les franciser un peu, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a une autre vague de mots, de vocabulaire qui va intégrer la langue française. Mais pas que pendant la colonisation, il y a aussi après la guerre mondiale, tu vois. La seconde guerre mondiale, notamment. Pareil, pourquoi? Bah, t'as les migrants d'Afrique du Nord qui commencent à arriver. Et quand tu arrives à un endroit, t'arrives avec tes bagages. Comme l'histoire de la jupe. La jupe, elle arrive, tu la prends comme elle est avec ce qu'elle est. Donc, ça va être des prénoms différents qui vont arriver. Ça va être des mets aussi, des plats que ces personnes-là font dans leur pays qu'on ne connaissait pas, qui vont intégrer le paysage. Ça va être des mots qu'on va entendre, je kiffais, etc. Tu vois, des mots un peu aujourd'hui qui sont plus dans l'argot d'ailleurs. Tu vois, si tu veux, l'argot, il vient plus de l'arabe des colonies et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Là où le vocabulaire savant, il faut penser à Omeyyade, Abbasside. Après, le reste, l'argot, il vient plus de ces périodes-là. C'est une période dans laquelle, si tu veux, la posture de l'arabe, elle n'est plus celle de celui qui apporte une connaissance, elle est plutôt celle de celui qu'on va exploiter dans le sens de la colonisation ou dans le sens de l'après-Seconde Guerre mondiale, exploiter dans le sens de la force ouvrière, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, ça devient plus un langage populaire. Ça change de posture.
Elle devient moins savante.
Elle devient moins savante, et surtout que voilà, le terme qu'on va utiliser à ce moment-là, il n'est pas forcément celui qui va être utilisé dans le sens de connaissance ou de science, etc. Ça va être le vocabulaire du parler de tous les jours, du quotidien, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas le même vocabulaire, tu vois. Alors que ça reste de l'arabe, pourtant. Donc, tu vois, c'est intéressant de le voir par rapport à l'histoire, tout ça, tu vois. C'est vraiment important parce que ces phases-là, elles ont leur importance. Et ces phases-là, elles ont fait que, de toute façon, la langue arabe a influencé la langue française. Influencé. Je vais redire mon terme. Elle a enrichi la langue française. Vraiment, c'est
retenez les auditeurs et auditrices, retenez, enrichi.
Ça a été enrichi, ça a été enrichi, clairement. Donc, ça a apporté de la couleur, en fait. Donc, si c'est pas enrichir, bah, influencer, je dirais pas vraiment influencer, parce que c'est toujours péjoratif d'influencer quelqu'un. En tout cas, sauf aujourd'hui avec les influenceurs, un influenceur, c'est cool. Mais non, enfin, quand on était plus jeunes, quand on parle, on ne te laisse pas influencer, ça voulait pas dire que ça va bien se passer pour toi. Donc, je dirais vraiment que, ouais, c'est dans le sens ici, elle est venue enrichir, apporter sa contribution. Dire à la langue française, tu es une langue vivante, les langues donc sont vivantes, et quand on dit langue vivante, faut bien penser à ce que ça veut dire. Une langue vivante, c'est-à-dire qu'elle est consciente qu'il faut, pour vivre, il faut changer, s'adapter, évoluer. Une langue qui n'évolue pas est une langue qui meurt. Hein. Le latin, ça a été ça, etc. Donc à un moment donné, la langue arabe, il faut pas penser qu'elle est dans un carcan, enfin qu'elle est bridée par une géographie, elle est délimitée, etc., par une géographie, ou par aussi ses propres racines linguistiques. Il faut qu'elle puisse intégrer d'autres termes, etc. Ce travail, il a été fait notamment par l'Égypte, après l'époque napoléonienne, quand ils ont commencé à envoyer des personnes étudier dans les pays européens, parce que là, il y a eu un inversement des pôles, à ce moment-là. C'est plus le monde arabe qui apportait, c'était l'Occident qui commençait à apporter, et du coup, il fallait aller chercher ce qui se faisait. Et l'Égypte a fait un gros travail à ce moment-là, notamment dans les arts. Le roman, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à intégrer le monde arabe. Si tu veux, l'arabe, l'arabe, quand je dis l'arabe, c'est la culture arabe ne connaissait pas le roman. On connaissait les récits apportés, on connaissait la poésie, ça c'était très connu. On connaissait les mouachahat avec l'Andalousie, ça avait évolué en poésie rimée, rythmée. Je pense que ça tu dois connaître. Mais on connaissait pas le roman, ça ne parlait pas. Et c'est devenu quelque chose de connu. D'ailleurs, un des plus connus dans le monde arabe, ça reste Nagib Mahfouz. Tu vois, un des plus grands romanciers, ça reste lui, un Égyptien. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ils ont fait un gros travail là-dessus. Pareil, le théâtre, ils ont récupéré ça des Occidentaux. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, les Arabes ont nourri l'Occident, la France en particulier pour nous, parce qu'on est français, mais l'Occident a été nourri par l'Orient. Et suite à ça, retour obligatoire. Je t'ai donné à ton tour. Je vais aussi récupérer des choses. Donc, il faut pas penser la vie comme si on était des personnes qui étaient chacun dans son coin, comme tu disais tout à l'heure, hermétique, personne ne va chez personne. Non, c'est pas possible.
Même la langue arabe, on a tendance à dire la langue arabe, c'est la langue du Coran, on la touche pas, elle évolue pas, elle est comme ça.
Non, c'est faux. Tu sais, même dans le Coran, en fait, pour ceux qui vraiment étudient le Coran en profondeur, il y a des termes perses, byzantins, des termes en fait qui n'étaient pas forcément arabes en soi. On parle avec des mots de l'époque, les mots de l'époque. Qu'est-ce qui gouvernait le monde? C'était la Byzance, c'était la Perse. Donc forcément, ils ont influencé la langue arabe. Et dans la langue arabe du Coran, il n'y a pas que la langue des Quraïchites. Il y a aussi d'autres dialectes arabes qui étaient parlés. Tu vois, on a tendance à croire que l'arabe classique c'est une seule langue. Non, il y a plein de dialectes en fait dans la péninsule arabique. C'est juste qu'il y en a un qui a primé sur les autres, celui des Quraysh. Pourquoi celui des Quraysh? C'est l'histoire. Parce que le Coran était révélé aux gens de Quraysh à la base. Il fallait qu'ils comprennent tout de suite ce qui était dit, etc. Donc on va parler. Mais si on prend le temps d'analyser le Coran même grammaticalement, la grammaire n'est pas la même parfois. Elle est celle de Quraysh parfois et elle est celle d'autres parfois. Et la grammaire n'est pas la même. Mais ça, il faut, tu vois. Il faut s'ouvrir à ça. Faut accepter tu vois, et même, tu vois, pour, je parle là où, justement, la communauté musulmane qui a tendance à dire, oui, c'est comme ça, c'est ça. Non, en fait, Dieu, c'est pas noir ou blanc. Dieu, c'est, je vous offre une palette. Faites-vous plaisir. Ça serait trop triste, en fait, la vie sans palette, sans couleur, tu vois. Il y a de la couleur, en fait. Et ça, ça amène à la réflexion, ça amène à la pensée, ça amène à se dire, ok, d'accord, bah, tiens, comment on pourrait, et ça, vous voyez, c'est ce qui s'est fait dans les langues, c'est, un nouveau concept, comment je vais l'appeler? Mais même nous, en fait, vous avez un enfant, la première chose à laquelle vous pensez, c'est on l'appellera comment? On cherche à mettre un nom, un mot, qui ait du sens, etc. Alors nous, on n'invente pas, parce qu'il y a des choses qui existent, de très belles choses d'ailleurs. Mais quand on invente un nouveau concept que personne ne connaissait, mais forcément, forcément, on est dans quelque chose, dans un domaine dans lequel on doit créer un mot, et un mot qui ait du sens, et qui soit profond, etc. Mais cet échange-là, il est mis beaucoup de côté, parce que voilà, c'est pas intéressant. Tu sais, quand on rapproche les gens, ça devient pas intéressant pour X raisons. Alors que, en réalité, un arabe tout en français, en tout cas une personne qui vient du monde arabe tout en français, qu'un français serait arabe s'il allait dans le monde arabe. En vérité, c'est ça la réalité du truc. C'est que, on est traversé chacun par tout ce qui s'est fait avant nous. Et on doit accepter cet héritage-là, pas comme un fardeau, mais comme je te disais tout à l'heure, une richesse. On est riche, en fait. Juste, on est riche, tu vois. Le fait de parler français et l'arabe, ça fait pas de toi quelqu'un qui, tu vois, n'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, la langue, l'arabe, moi, j'ai beaucoup d'apprenants qui me disent, ouais, quand j'apprends l'arabe, on me dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas te radicaliser, tu vois. C'est pas se radicaliser. L'arabe, c'est genre, en fait, c'est juste s'offrir l'opportunité de communiquer avec plus de gens sur Terre. Comme quand t'apprends l'anglais, l'espagnol. En fait, tu t'offres juste la chance de parler avec plus de monde, en fait. De te faire peut-être plus d'amis. Tu vois? D'apprendre plus, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Avant toute autre chose, la langue arabe, c'est une langue. Tu vois? Et ça, aujourd'hui, après, comment dire, ça peut se comprendre en même temps, c'est triste, mais ça a pris une empreinte négative. Et elle ne devrait pas avoir cette empreinte-là. Parce que, je vous redis, c'est une langue qui a énormément apporté, mais qui peut encore énormément apporter. Tu vois? Elle apporte énormément, à beaucoup d'ailleurs. Ça peut être spirituellement, ça peut être professionnellement. T'en as qui arrivent à travailler grâce à cette langue, qui arrivent à aller dans des pays arabophones, qui font fortune même, tu vois, grâce à cette langue-là. Et pourquoi pas, après tout, ou de mal. Mais parce qu'ils ont accepté de l'apprendre comme une langue, tu vois. Et non pas de la regarder avec des dents en disant, ouais, c'est quoi ce truc, je comprends rien, c'est du charabia. C'est du charabia. Mais tu vois, c'est cette acceptation-là. Et tu vois, je vais aller plus loin. Alors, la langue arabe, on l'a beaucoup plus acceptée en matière culinaire, par exemple. Aujourd'hui, on l'accepte plus comme ça. Le couscous, tu vois. De qu'est-ce c'est? Qu'est-ce qui vient de, tu sais, c'est juste le son. En général, dans la langue. Pardon, il y a eu un moment de pause là, c'est parce que je suis passé à 10%. Sachez-le.
Donc, très bien, nous, quand tu as.
Ouais, je pense qu'on va être sur la fin, là. Ouais. De toute façon, moi, j'arrive sur la fin de ce que je voulais dire de la langue. Mais en tout cas, ouais, le terme kaskasa, balbala, tu vois, les mots comme ça qui sont redoublés, en fait, sont la répétition d'un son ou d'une action. Donc, kaskasa, c'était juste le bruit que faisait le grain dans le récipient. Ils sont pas pris la tête, hein. Ça, on va appeler ça.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots comme ça en arabe, tu vois.
Bah oui, bien sûr. Oui. Ça fait que on va appeler ça bon. Ah, ça vous va, ça va à tout le monde. Pas de réunion, on appelle ça comme ça. Et ça donne le couscous, tu vois. Le couscous, t'as le taboulé, tu vois. Taboulé, on dirait comme ça, c'est un mot français et tout, parce que on l'a intégré, en fait, depuis petit. Même pour te dire, moi, étant petit, je pensais que le couscous, c'était les arabes et taboulé, c'était les autres, tu vois. Mais non, en fait, taboulé, c'est arabe à la base, tu vois. C'est juste, il faut le savoir. Mais tous ces mots-là, on les a hyper bien ingérés, parce qu'en fait, c'est la nourriture, on l'accepte beaucoup plus facilement que la langue en soi, en tout cas, celui qui parle la langue, tu vois. Tu vois, viens pas, mais un petit plat, ça fait plaisir. Ça passe. Tu vois, ça, il y a beaucoup de couscous, il y a le mot, kebab. Qui ne connaît pas le kebab? Je veux dire, même celui qui n'en mange pas, connaît kebab. Le kebab, c'est arabe, tout ça, tu vois, la merguez, c'est un terme qui vient de l'arabe, tu me disais tout à l'heure, djellaba, serwal, les moucharabiers, tu vois, les fameux murs en moucharabiers, arabe, tout ça, c'est de l'arabe. Et tout ça, c'est venu enrichir un vocabulaire, une langue, pas qui était pauvre, mais qui ne pouvait pas désigner des choses qu'elle n'avait pas elle-même faites ou fabriquées, tu vois. Donc, à mon avis, c'est l'acceptation de ça qu'il faut. Comme aujourd'hui, quand je te dis, moi, électronique, c'est électronique. Pourquoi c'est un mot qui est occidental? Parce que l'arabe ne l'a pas inventé. Là, il était dans la posture inverse d'accepter un vocabulaire qui est le sien.
Là, il y a tout le vocabulaire scientifique.
Aujourd'hui, il est occidental.
C'est ça.
Et d'ailleurs, plus anglais que français, tu vois. Exactement. Mais tu vois, ça, c'est encore une fois, c'est comme pour moi, comment je le vois, c'est pas que une langue est devenue, est au-dessus de l'autre. C'est qu'à un moment donné, la langue arabe semait quelque chose, et aujourd'hui, elle récolte quelque chose, tu vois. C'est, j'ai donné à un moment donné, j'étais fatigué, j'ai été épuisé par X, pour X raisons, à ton tour de donner, et à un moment donné, elle va redonner aussi à son niveau, tu vois. Donc, ça, il faut l'accepter parce qu'elle est vivante, tu vois. Elle est vivante, donc elle sait que il faut qu'elle évolue. Au début, elle pensait comme ça. Elle a donné ses idées. Elle a répondu, etc. à certaines choses. Maintenant, elle se remet en question. Elle accepte de recevoir. Tu vois, c'est ça en fait. Constamment. Oui. C'est des corps vivants. Et le jour où une langue dit je suis au-dessus et tout le monde doit parler comme moi, elle annonce clairement je suis en train de mourir. Tu vois. Oui. Une langue qui dirait aux autres langues on arrête tout, c'est moi d'abord. Elle est juste en train d'annoncer, regardez, je vais bientôt partir, donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. C'est ça qu'elle est en train de faire. Tu vois, à aucun moment, elle se donne les moyens de poursuivre. Tu vois. Et c'est là où c'est beau, c'est qu'on a besoin l'un des autres, chacun a besoin de l'autre pour vivre et subsister et avancer. C'est aussi vrai pour les humains que pour les langues, que pour tout le reste, le cercle de la vie, ce qu'on voit avec les animaux, chacun apporte à l'autre d'une manière, à sa manière, etc. L'oiseau qui va, ou l'abeille qui va prendre ici le pollen, mais qui va déposer d'autres gerbes à côté pour que fleurissent d'autres fleurs. Enfin, tu vois, chacun a besoin de l'autre.
Okay,
tu m'as mangé. Voilà, tu m'as mangé, mais je sais que tu vas donner vie à d'autres enfants à moi. Enfin, tu vois, quand on accepte ça, on a compris ce que c'était d'être vivant. C'est même pas humain. D'être vivant dans tous les sens du terme. D'être une plante, d'être un insecte, d'être un animal, d'être l'eau, d'être l'air, d'être tout. On a compris ce que c'était.
Et la langue arabe. C'est une belle façon de finir avec la philosophie.
C'est important.
C'est le meilleur moyen.
Non, mais c'est important parce que c'est vraiment ça. Et en tout cas, nous, c'est notre façon de concevoir. Quand on change, tu vois, quand on a parlé avec mon épouse hier, quand on a discuté de ce sujet-là, parce que ça nous a emmené au pour le coup, voilà, on a fait notre petite réunion, tu vois. Maman s'est mis en mode start-up, on fait notre réunion et tout. Ça la fera rire, je pense d'ailleurs. Mais voilà, on a discuté, échangé, et c'est vrai que ça emmène, tu vois, ça emmène. Et c'est quoi une langue, c'est quoi parler arabe, quel est l'échange qu'il y a eu. En fait, c'est un échange d'être vivant, tu vois. C'est un mariage, et on se marie, on s'enrichit l'un à l'autre, tu vois. Tu m'as apporté, je t'apporte. Il y a eu à aucun moment, tu vois, justement, pour moi en tout cas, l'influence, je t'écrase par mon poids. L'influence, ça aurait été de dire à la personne, c'est bon, t'arrêtes tout, on fait de l'arabe. Tu vois, maintenant c'est fini.
Hassan, il y a une. Si moi je te coupe, alors il y a une auditrice, je viens de voir ça, Inès, qui nous a dit, par rapport à la latinisation de tous les philosophes arabes, tout ça, est-ce que c'est une volonté,
Ouais, il y a deux écoles. C'est comme pour les noms arabes, hein, d'ailleurs. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que. Alors, ça c'est par rapport notamment à l'orientalisme. On parle beaucoup de l'orientalisme par rapport à ça. Il y a des orientalistes qui ont travaillé, alors c'est comme le prénom Mohammed qui est défini par Mahomet, effectivement, qui en arabe veut dire deux choses différentes. Certains disent que c'est vraiment volontaire, et c'est vrai que parfois ça donne cette impression, en fait, parce que c'est vrai quand tu prends Averroès et Nourouche, tu dis où est le rapport, en fait, tu vois, tu dis mais il y a un souci, tu vois, quelque part. Ou Ibn Sina, etc. Tu vois, des mots qui sont Avicenne, Ibn Sina, tu vois, qui ont été tellement transformés que tu te dis ouais, le gars, un petit effort, tu vois. Comme Mahomet, entre Mahomet et Mohamed qu'on sait prononcer, c'est quand même beaucoup plus proche le Mohamed que le Mahomet, tu vois. Donc je vais pas me placer là en tant que juge. Il y a sûrement des personnes mal intentionnées dans tout. Mais il y a aussi des personnes qui utilisent les termes sans aucune volonté de tronquer le sens, etc. Maintenant, aux personnes qui savent ce que le vrai nom de la personne, de redorer ce nom-là aussi, tu vois, ce que certains ont fait en disant là, sachez, Avicenne, il s'appelait plutôt comme ça. Là, c'est une manière de redorer les choses, de redonner les choses à un moment donné, de revaloriser, mettre en avant, de revaloriser, exactement, merci pour le terme, de revaloriser la personne, et, ou en tout cas son nom, etc., parce que c'est vrai que ça reste des choses importantes. Donc il faut savoir les dire, mais il faut pas toujours être dans une posture, si tu veux, accusatrice et un peu complotiste, tu vois. Il y a forcément des mauvaises choses qui se font, il y a forcément des personnes mal intentionnées, on est vivant, on se le rappelle, il n'y a pas que du rose et du beau, mais il ne faut pas qu'on oublie les autres qui utilisent peut-être ces termes-là, qui les utilisent vraiment en se disant voilà, il y a aucun mal là-dedans, donc on va le faire dans ce sens-là. Donc oui, il y a des deux en fait. Et moi, là-dessus, je prends pas trop position. Je me dis un minimum de recherche parfois fait qu'on retrouve les choses. Ça montre bien qu'il y a eu un travail aussi de l'autre côté qui a été fait. Je vais me concentrer sur celui-là. Et lorsque je vais échanger moi avec mes proches ou autres, quand je vais enseigner, je vais en parler. Et c'est ma manière à moi de dire, voilà cette personne ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a mis en place, etc., etc. Mais en tout cas, pour terminer sur ce qui nous a intéressé, sur la langue, oui, la langue arabe est présente dans la langue française avec plus de 600 mots, d'ailleurs, plus de 600 mots. Et quand je dis 600 mots, rappelle-toi que je te disais, c'est des mots usuels courants, c'est pas des trucs que tu vas utiliser. Voilà. Et ça, c'est sans parler des mots savants concernant la faune et la flore pour des termes techniques. Et je parle même pas des astres, parce que pareil, il y a énormément de noms d'astres, etc., qui sont issus de la langue arabe. Pourquoi? Parce que l'astrologie, etc., c'est les Arabes. Quand c'est arrivé de l'âge d'or, où ça a été développé, etc., donc forcément, il y a des mots arabes qui sont dedans. Mais, je vais prendre juste ce terme, Altaïr. Tu connais Altaïr? Tout le monde connaît Altaïr, même si on sait pas ce que c'est. C'est Altaïr, en fait. L'oiseau. Altaïr, Altaïr. Voilà. Altaïr, c'est l'oiseau. Pourquoi? Pour la forme de l'oiseau qu'elle a, etc. Tu vois? Donc voilà. En tout cas, c'est une langue présente dans la langue française, comme la langue française est aujourd'hui présente dans les pays du Maghreb et autres. Et il faut qu'il y ait une réconciliation entre ceux qui pensent avoir été dupés par les uns ou les autres, et qu'une réconciliation des êtres vivants. Tu vois. Voilà, je vis, donc forcément, j'évolue. Voilà, je pense que je m'arrêterai là-dessus.
Ben écoute, d'habitude, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui nous suivent, d'habitude, j'essaie de faire une synthèse plus ou moins à la fin de l'émission. Là, je la ferai pas, parce que tu as très bien fait le travail. Tu as tout fait.
C'est gentil.
C'était un plaisir, vraiment. C'était vraiment un vrai plaisir. J'ai vraiment beaucoup appris. Vraie valeur ajoutée, ce live. Et chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez aussi apprécié et savouré le moment. Je tiens à dire aussi qu'on peut te retrouver justement dans le site Méthode Jawad. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ton projet?
Alors, c'est pas l'objectif, donc je vais en parler très brièvement, d'accord? Alors, nous, on donne des cours de langue classique, on appelle ça arabe classique, mais moi, je dirais plutôt arabe standard moderne, c'est l'arabe qu'on utilise dans les médias ou dans la vie de tous les jours, au travers de cours sous format de 20 heures, avec des mini-groupes de 6 à 8 personnes maximum, dans lesquels on va apprendre à lire, écrire notamment, mais aussi communiquer et surtout utiliser du vocabulaire du quotidien. Tu vois, on est beaucoup sur l'aspect vivant de la langue, tu vois, justement. On ne travaille pas sur des textes classiques, on ne travaille pas sur de la grammaire concrète, c'est pas du tout ce qu'on fait. On travaille vraiment autour de la langue comme un outil du quotidien et de tous les jours. Voilà, pour faire court, après pour ceux qui veulent vraiment savoir plus, qu'ils n'hésitent pas, hein, ma femme qui gère le super bien Insta, qui est présente, qui vous répondra si elle a pas la réponse. Parle entre nous, on échange. Voilà comment on fait avec Méthode Jawad. Merci beaucoup pour le petit côté promo, parce que tu donnes des cours d'arabe.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Non, mais c'est important, ouais. Tu vois, par exemple, tu vois, là, c'est important parce qu'on a eu cet échange-là, que les gens le sachent. Ouais. Tu m'as dit, oui, tu sais, tu sauras que je donne quand même des cours d'arabe, que tu ne dises pas si je récupère tes trucs pour la concurrence. Voilà. On a une conception de la concurrence qui n'est pas du tout celle qu'on connaît. On apprécie échanger. Voilà. Je te disais au téléphone, Ardullah wasi'a, la terre de Dieu est vaste et large. Et chacun trouvera subsistance s'il cherche.
C'était un vrai plaisir. J'espère peut-être te revoir dans d'autres émissions.
Un grand plaisir, ouais. Franchement, ça m'a plu. Le sujet était très intéressant. Après, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment développer dans le détail, mais c'est quelque chose à creuser. En tout cas, j'espère que ça va pousser les personnes à creuser un peu plus.
En tout cas, les chers auditeurs et auditrices, sachez qu'on fait des émissions tous les lundis, mercredis et vendredis. À 18h sur Instagram, et après toutes ces émissions, elles sont disponibles sur le site Art d'Orient dans la rubrique émissions radio. Elles sont classées en fonction des thématiques, et la prochaine thématique, ça va être un historien qui va nous venir de la région nantaise et qui va nous parler à la fois de deux thématiques qui sont, c'est vrai, différentes, de l'éducation des enfants, de comment accompagner les enfants de manière vraiment d'une manière où il va se sentir valorisé et qu'il va sentir que il va pouvoir fournir les efforts nécessaires pour sa scolarité. Et le deuxième sujet, ça va être aussi dans une émission juste après la prise de Jérusalem avec Omar. Donc je vous invite vraiment à suivre les lives qui vont arriver. Il va y avoir beaucoup de lives, beaucoup de thématiques. Alors j'ai la liste devant moi. On va parler de la relation aussi la semaine prochaine avec Shakil Seder, pour ceux qui connaissent le stade Shakil, qui va nous parler de la relation, la magnifique relation qu'avait le prophète Mohammed avec son épouse Khadija, d'un point de vue un peu spirituel et d'un point de vue historique aussi. On va parler du système de prénoms aussi, on va parler des énéagrammes, on va faire toute une semaine sur l'énéagramme, on va parler aussi de philosophie, il va y avoir des profs de philo qui vont venir, on va parler aussi de sujets de santé. Donc vraiment n'hésitez pas à suivre, à vous abonner et surtout à participer. S'il y a parmi vous des personnes qui ont des domaines d'expertise ou des, comme Hassan aujourd'hui par exemple, ou des passions qui sont liées à l'Orient, n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, liées à l'Orient et pas forcément d'ailleurs, n'hésitez pas à venir. Envoyer des messages ou envoyer un mail et à proposer tout simplement votre participation, vous serez les bienvenus. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à faire ce live avec vous. Je vous dis à bientôt, patientez, plus que 5 jours avant la fin du confinement. Je vous embrasse. Ciao.